demi-journée.
Bonjour, les passagers du vol de Suisse qui a dû atterrir en urgence hier soir sont arrivés à Zurich. L'enquête en cours devra déterminer les causes de cet incident. Un membre d'équipage est toujours aux soins intensifs. On fait le point en ouverture de ce journal. Un Noël blanc et une neige tombée à pic pour les stations de montagne. L'or blanc booste les réservations. On entendra une hôtelière valaisanne. Noël, c'est aussi des vœux, de la solidarité et des saisonniers. Les vœux du Conseil fédéral avec ses traditionnelles les cartes. On se demandera ce qu'elles disent de nos ministres. La solidarité avec l'exemple des concerts du cœur, des concerts dans des hôpitaux, des EMS ou des foyers pour migrants. On sera avec leur fondatrice. Et puis des saisonniers qui passent Noël loin de leurs proches. C'est le deuxième épisode de notre série avec des gens qui vivent des fêtes un peu particulières. La mode et le sport, ils ne sont jamais très éloignés, que ce soit avec les baskets ou même les trainings qu'on voit de plus en plus dans nos rues. L'exposition Mode et Sport d'un podium à l'autre retrace ce lien. Elle est à découvrir en ce moment au Musée Olympique à Lausanne. Sophie Lemayeux, la commissaire, nous en parle dans une vingtaine de minutes. Météo, ciel dégagé en vue, on peut embarquer pour ce 12-30. Les passagers du vol Bucarest-Zurich, interrompus en urgence hier soir, ont finalement atterri à l'aéroport de Kloten en fin de matinée. Leur avion de la compagnie suisse a dû se poser en urgence à Graz, en Autriche, en raison de problèmes de moteur et d'un dégagement de fumée détecté dans le cockpit et dans la cabine. Parmi les 74 passagers évacués, certains ont été légèrement blessés. Et Tania Zaspinar, un membre de l'équipage, est toujours aux soins intensifs.
Oui, la compagnie aérienne vient de communiquer. Son état de santé reste incertain et sa famille est à ses côtés à l'hôpital de Graz en Autriche. Un autre membre de l'équipage reçoit encore des traitements médicaux. Quant aux passagers, tous ceux qui étaient hospitalisés ont pu quitter l'hôpital. Swiss se dit en pensée avec les personnes affectées en espérant une amélioration rapide de l'état de santé de son membre d'équipage. Elle précise aussi ne pas donner d'informations supplémentaires afin de respecter la vie privée des familles. En tout cas, 63 des 74 passagers qui ont passé la nuit à Graz ont embarqué ce matin dans le vol spécial organisé par Swiss et ils viennent d'atterrir à Zurich.
Est-ce qu'on en sait plus sur les causes de ce dégagement de fumée ?
Alors, l'enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incident. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un dégagement de fumée dans la cabine et le cockpit. L'avion aurait mis une vingtaine de minutes à descendre pour pouvoir atterrir. Le porte-parole de la compagnie aérienne m'a confirmé qu'aucun masque à oxygène n'a été mis à disposition. Selon lui, c'est un processus tout à fait normal, car quand il y a un dégagement de fumée, on ne sait pas s'il y a des flammes et donc un potentiel risque d'explosion. La compagnie aérienne s'engage à clarifier la situation, mais n'en dit pas plus pour le moment. Elle affirme collaborer étroitement avec les autorités en charge de l'enquête. L'avion concerné, c'était un Airbus A220, a été retiré de la flotte pour analyse.
Vos explications, Tania Zaspinar. Merci. Un paysage blanc de carte postale, la neige tombée ces dernières heures ravit les stations de montagne. Virginie Langeroc, vous avez sondé quelques destinations. Cet or blanc, juste avant les vacances, ça a permis d'accélérer les dernières réservations.
Oui, les responsables des régions touristiques de montagne constatent effectivement une hausse des réservations, aussi moins d'annulations. Dans les stations de Villars, Grillon, les Diablerets, dans le canton de Vaud, donc on assure que le début de saison est excellent. Et en général, quand la saison débute bien, il y a de quoi rester serein pour les mois qui suivent. Dans le canton de Fribourg, cette neige fraîche est une aubaine. Un responsable du tourisme cantonal évoque une bouffée d'air frais à l'économie touristique des Préalpes fribourgeoises qui traverse depuis 2 ans une passe difficile et dont la plupart des stations se trouvent à basse ou moyenne altitude. Cette fois, elles n'ont même pas eu besoin de canons à neige et elles rouvrent aujourd'hui la totalité de leur domaine. En Valais aussi, les responsables hôteliers ont le sourire. C'est le cas de Lara Berra, hôtelière à Champéry et coprésidente de l'association de l'hôtellerie valaisanne.
C'est vrai que là, ces chutes de neige, c'est un joli dernier booster pour les derniers trous qu'on avait, par exemple chez nous. Après, je pense que c'est un petit peu la même chose pour tout le Valais. Un Noël sous la neige, des bonnes perspectives de soleil pour les prochains jours à venir. Non, c'est vraiment fantastique.
Et des réservations qui arrivent dès que la neige tombe, ça veut dire que beaucoup de monde attend vraiment la dernière minute.
Oui, alors ça concerne surtout ceux qui sont proches. Donc les Suisses, et de plus en plus en tout cas parmi eux, attendent de connaître la météo avant de monter ou pas en station. Lara Berra.
Nous, c'est toute la clientèle, je dirais, qui est à moins d'une demi-journée de route. Ils attendent un peu la dernière minute. Moi, je dirais pour nous, ça représente peut-être un 20%, quelque chose comme ça.
Alors, dans le canton de Fribourg, 80% de la clientèle vient à la journée et se décide donc en fonction de l'enneigement. Ces centimètres fraîchement tombés sont donc pour de nombreuses stations un cadeau bienvenu et inattendu.
Des fêtes qui s'annoncent bien en station. Merci Virginie Langeroc. Aux Pays-Bas, cette condamnation de 5 supporters auteurs de violences contre des fans israéliens. C'était en novembre à Amsterdam. Plusieurs gouvernements avaient condamné ces violences. Le parquet d'Amsterdam a reconnu ces 5 hommes coupables d'une série de délits allant de coups de pied donnés dans la rue à des supporters du Maccabi Tel Aviv, à l'incitation à la violence dans des groupes de discussion. Ils écopent de peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme. Toujours dans l'actualité internationale, le retour des réfugiés syriens après la chute de Bachar al-Assad. La Turquie annonce que plus de 25 000 personnes ont traversé la frontière turque pour rentrer dans leur pays ces 15 derniers jours. Mais la Turquie précise qu'elle accueille toujours sur son sol un peu moins de 3 millions de Syriens qui ont fui la guerre. Les autorités turques espèrent que beaucoup retourneront dans leur pays afin d'atténuer le fort sentiment anti-syrien dans la population. C'était il y a 25 ans, quasi jour pour jour, l'ouragan Lothar ravageait une partie de la Suisse. 10 millions d'arbres arrachés par des vents qui ont soufflé jusqu'à 250 km/h. Parmi les régions les plus touchées, le Jura bernois. Mais la forêt a réussi depuis à se refaire une santé, Célia Berthollet.
Aujourd'hui, 25 ans après, c'est presque difficile à croire qu'un ouragan a dévasté la région. Reynald Quelot, chef de la division du Jura bernois à l'Office des forêts du canton de Berne.
On peut deviner ici et là encore quelques traces en certains endroits où les trouées avaient eu une certaine importance, une certaine taille. Mais pour le reste, on peut se rendre compte que la forêt s'est refait une santé et que, disons, elle paraît plus ou moins intacte.
Des forêts qui sont d'ailleurs devenues plus diversifiées depuis le passage de Lothar.
Pour la reconstitution des forêts dévastées, maintenant, on travaille moins en plantant, mais plus en laissant la nature se reconstituer par elle-même. Ce que l'on plante, c'est effectivement pour diversifier les essences.
Laisser la nature faire son travail permet d'avoir des bois en meilleure santé, comme l'explique Reynald Quelot.
On a une diversité d'essences. Le rajeunissement n'apparaît pas de manière couvrante sur toute la surface en même temps. Une certaine diversification qui apparaît. Et l'on sait que les forêts qui sont diversifiées sont plus résilientes que les forêts qui sont composées d'une seule essence.
Mais si aujourd'hui les stigmates de Lothar ont pratiquement disparu, les forêts subissent désormais les aléas du dérèglement climatique.
Le sujet signé Célia Berthollet. Il y a la carte avec vue sur le Léman, une autre avec l'Oberland bernois enneigé, ou encore une qui montre une chaise en trois dimensions. Les conseillers fédéraux ont envoyé leur traditionnelle carte de vœux, un exercice esthétique, mais aussi politique. Phileas Sautier, on va les passer en revue avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire du ton du gouvernement cette année?
Alors ce ton est parfois grave, voire inquiet, à l'image de la carte de vœux de Guy Parmelin. Le Vaudois a choisi une photo du Léman avec, en fond, sur les crêtes du Jura, des nuages sombres qui symbolisent la situation mondiale actuelle. Mais pourtant, devant, le vaste lac et le soleil rayonnent de confiance. Ton sérieux également pour le Tessinois Ignacio Cassis, dont la carte, en s'ouvrant, fait apparaître en trois dimensions une chaise dont les pieds symbolisent les conventions de Genève. On célèbre leur 75e anniversaire cette année. La guerre a des limites, rappelle-t-il. Ce devoir d'humanité doit guider nos efforts en 2025. Message d'optimisme technologique pour Albert Rushdie avec une carte réalisée par intelligence artificielle. Concrètement, ça ressemble à une photo de l'Oberland bernois enneigé, un symbole de l'équilibre entre tradition et innovation, une préoccupation centrale du conseiller fédéral UDC, même au-delà des fêtes, précise-t-il.
Il y a des messages politiques, mais est-ce que tous les conseillers fédéraux le font avec ces cartes de vœux?
Alors non, ce n'est pas toujours le cas. Certains se sont contentés d'une carte plus classique, voire peu inspirée. Pour Karine Keller-Sutter, c'est une série de mots-clés sur les thèmes traités par le département des finances, avec le message « Joyeuses fêtes en surbrillance dans les quatre langues nationales ». À mon humble avis, c'est la carte la moins réussie. Et quant à Viola Amert, elle fait du recyclage. Elle réutilise l'identité visuelle de la photo de cette année du Conseil fédéral. Jolie, mais déjà vue.
Vous vous mouillez, Phileas, c'est bien. Est-ce qu'il reste encore les deux conseillers fédéraux socialistes?
Oui, à commencer par Elisabeth Baumschneider, ministre de la Culture. Elle choisit une œuvre de la lauréate du prix d'art suisse 2024, un ruban rouge sur fond bleu qui symbolise le dialogue qui réunit les femmes et les hommes. Et je finis par la carte la plus surprenante, celle de Beat Jans, une photo de trois jeunes adolescents qui traversent une rivière. Ensemble, c'est mieux, dit le texte. Alors, qui sont ces adolescents? Mystère. On sait juste que le socialiste a un lien personnel avec eux.
Les cartes de vœux du Conseil fédéral. Merci, Phileas Sautier. Et la période de Noël, c'est aussi la solidarité. Les initiatives sont nombreuses. On va s'intéresser dans ce 12-30 aux concerts du cœur, des concerts organisés dans des EMS, mais aussi en milieu hospitalier, dans des foyers pour migrants. Il y en a plusieurs ce mois-ci dans différents cantons romands. Bonjour, Laure Barras.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice des Concerts du Cœur, vous êtes aussi chanteuse d'opéra, soprano, vous arpentez les scènes internationales, mais vous serez ce soir à la clinique bernoise de Crans-Montana, justement dans le cadre des Concerts du Cœur. En quoi c'est important d'offrir de tels moments à des gens malades ou âgés notamment ?
Ben, je pense que tout le monde a le droit au meilleur de la culture et comme ce sont souvent les personnes qui peuvent pas se déplacer dans les salles de concert, c'est nous qui allons directement chez eux, dans les chambres des patients d'hôpitaux, chez les résidents d'EMS. Donc c'est nous qui allons et c'est voilà, je pense que quand on offre le meilleur de la culture, il y a quand même c'est exceptionnel.
Et qu'est-ce que ça leur apporte ? C'est une sorte de réconfort ?
Ben c'est sûr, c'est le réconfort. C'est aussi leur dire que ce sont des gens qui comptent. Donc c'est pas parce qu'on est dans un EMS ou dans un hôpital, qu'on doit écouter que la radio. Même si la radio c'est très bien, mais on a aussi les artistes qui peuvent venir chez eux. Et puis on voit qu'avec la musique c'est le langage universel qui réunit tout le monde. En plus après on chante tous ensemble. Et ben moi je l'ai vu. Je vois que ça rend les gens en meilleure santé et que le temps d'une minute, ils deviennent beaucoup plus joyeux et probablement que ça reste même après le concert.
Alors on l'a dit, hein, vous proposez ces concerts dans des EMS, des hôpitaux, des structures d'asile. Ces institutions sont demandeuses, j'imagine, il y a une liste d'attente. Comment ça se passe, votre collaboration ?
Oui, alors on organise énormément de concerts. On est présent maintenant sur 4 cantons et dans les 4 cantons, c'est environ 480 concerts juste en 2024. Donc on a énormément de demandes puisque l'association soutient, grâce au soutien de fondations, de l'Office fédéral de la culture, des cantons, de la loterie, d'énormément de partenaires, peut offrir ces concerts de grande qualité à un moindre prix pour l'institution.
Ça veut dire quoi, moindre prix pour l'institution ?
Ben, ça veut dire qu'on demande en général, mais ça dépend des cantons, donc je ne veux pas trop donner de chiffres précis, mais disons qu'on demande entre 300 et 450 francs pour un concert, alors que le concert nous coûte entre 2000 et 2500 francs à l'association, puisqu'on salarie tous les artistes et qu'on paye par exemple les charges sociales et la LPP dès le premier franc pour aussi montrer comment on aimerait être traité comme artiste.
Alors les concerts du cœur ce mois-ci, c'est près de 80 concerts et ateliers participatifs. 120 musiciens y participent. Pour une artiste comme vous, ça change quoi de se retrouver dans un hôpital plutôt que dans une salle de concert ?
Alors, c'est très, très différent. Je dois dire qu'on devient musicien tout terrain. On doit vraiment s'adapter. Les gens qui sont comme ça dans des situations vulnérables, ils ont plus de filtres. Donc, souvent, on a des réactions qui sont très, très naturelles et on doit s'adapter et on doit aussi être énormément à l'écoute et vraiment, on essaye de pas juste jouer, mais grâce à notre art, d'activer la participation chez le public. Comme ça, grâce à la participation du public, il y a un lien qui se crée entre artistes et public, par exemple grâce au chant, grâce à la danse, grâce au chant traditionnel suisse que tout le monde connaît. Donc c'est très différent. Et je dois dire qu'après, souvent, on réussit beaucoup mieux nos auditions traditionnelles parce qu'après avoir fait de nombreux concerts du cœur, on a été dans des situations... si quelqu'un n'aime pas, il se lève, il dit « c'est nul ». Et je dois dire qu'après, quand juste quelqu'un regarde son téléphone lors d'une audition, on le voit plus de la même façon et on réussit à peut-être mieux réussir nos auditions.
Laure Barras, chanteuse d'opéra soprano et fondatrice donc des Concerts du Cœur. Merci d'être passée un instant dans ce 12-30 et joyeux Noël à vous.
Merci beaucoup, joyeuse fête à vous.
Et ce soir, la cathédrale Notre-Dame à Paris accueillera sa première messe de minuit depuis sa réouverture. 5 ans de travaux après l'incendie qui l'avait détruite. Le groupe Corba, dans le Jura, avait collaboré à la reconstruction de la charpente. Eh bien, le voici à nouveau impliqué dans un projet lié à cette restauration de Notre-Dame. Un projet artistique cette fois, Gaël Klein.
Et oui, sa direction a été contactée par un artiste contemporain français, Benoît Dutour, venu exposer il y a quelques années au musée d'art optique à Porrentruy. Il avait appris par l'entremise de l'archevêché à Paris qu'une entreprise suisse avait collaboré pour la charpente. Benoît Dutour était donc intéressé à rencontrer Gauthier Corba, l'un des co-directeurs de la série jurassienne, pour un projet artistique. Il s'inspire d'une installation monumentale réalisée il y a un an à l'église de la Madeleine à Paris. Gauthier Corba.
L'idée, c'est une grande structure en bois avec des branches et des feuillages très stylisés. Et puis, c'est une référence à l'œuvre de la Madeleine de Benoît Dutour, des sortes de grandes larmes qui contiennent du bois calciné issu de la charpente détruite et aussi un échantillonnage du bois de la nouvelle charpente. Donc, ça tourne évidemment autour de la symbolique du bois, de l'avant, de l'après, du renouveau de la cathédrale.
Et est-ce qu'un tel projet pourrait prendre place dans la cathédrale Notre-Dame ?
Alors, on en est encore loin, mais pour Gauthier Corba, il est vrai qu'une telle installation offrirait une belle visibilité à ce qui a été entrepris pour la restauration de la charpente.
Ça m'intéresse aussi parce que ça touche à l'art et puis je crois que ça permettrait de pérenniser ce qu'on a fait pour la cathédrale. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si cette œuvre sera acceptée par les autorités compétentes et par l'église à Notre-Dame, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être réalisée, qu'elle va être présentée au public, qu'elle sera peut-être même une partie du programme qu'on va développer avec l'ambassade de Suisse pour la réception qu'on souhaite organiser l'année prochaine. Et c'est sûr que la cerise sur le gâteau, ce serait que cette œuvre puisse perdurer dans la cathédrale. Mais là, c'est un peu tôt pour le dire.
Rendez-vous donc l'année prochaine à Paris, sous les voûtes de Notre-Dame, où ailleurs à Paname.
Et on suivra tout ça. Merci, Gaël Klein.
Mes amis, ils sont ukrainiens. Et on a célébré les 24 et
le 25 décembre. Le restaurant, il est ouvert. On essaie de faire un repas staff un peu plus spécial.
On ne peut pas boire d'alcool dans l'espace et surtout pas de champagne.
Et on trinque un coup ensemble et on se souhaite joyeux Noël.
Noël, une fête souvent en famille ou peut-être avec des amis parfois. Mais le 12-30 a décidé cette année de donner la parole à des gens qui vivront des fêtes un peu particulières, différentes, loin de leurs proches souvent. C'est le cas des saisonniers qui s'activent dans nos stations. Émilien Verdon en a rencontré dans un restaurant à Verbier.
Dans ce restaurant de Verbier, ils sont près d'une vingtaine à travailler durant l'hiver. Ils viennent en majorité de France, mais aussi d'ailleurs, comme l'Espagne, le Portugal ou la Belgique. Noël, c'est la haute saison, ils le passent donc loin de leurs proches.
Moi, c'est Laurie, j'ai 29 ans et je viens de Lille, du nord de la France. Je suis la responsable de salle. On profite d'avoir les amis ici pour pouvoir un peu pallier ce manque de famille, c'est sûr. Mais ça fait partie de la vie de saison, la vie de Verbier. Et puis voilà, il y a aussi, vous entendez, tous les côtés joyeux qu'on peut avoir aux alentours qui nous donnent le baume au cœur, surtout. Tout le monde est en vacances à ce moment-là, les vacances de Noël. Les autres familles aussi sont là pour se retrouver ici. Donc nous aussi, c'est notre rôle de faire passer aussi un bon Noël à ces familles-là. Et puis voilà.
La distance les sépare de la famille, mais ça ne veut pas forcément dire aucun contact. C'est même des fois plus facile d'avoir des nouvelles ce jour-là, comme l'explique Quentin, 28 ans. Il vient de Toulouse.
C'est des moments assez simples souvent pour appeler la famille parce que tout le monde est plus ou moins réuni, donc ça permet d'appeler, de faire un gros appel et de parler à tout le monde sans avoir à appeler individuellement les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, ainsi de suite. Donc oui, je vais le faire après le travail, je pense, quand tout le monde sera réuni à table.
Adri arrive lui tout droit de Barcelone, mais comme saisonnier, il l'assure, Noël est presque un jour comme un autre.
J'ai fait une vidéoconférence avec la famille, j'ai fait une réunion avec les collègues. Et pour manger, un truc à boire, bah, pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail à Noël et c'est pas bon. Si j'ai fait la fête, normalement c'est maison, travail.
Pas trop la fête, dit-il, mais dans ce restaurant, on prévoit quand même de célébrer un peu, assure Laurie.
Mon patron achète toujours le petit foie gras que j'aime bien faire maison. Justement, c'est la recette de ma maman qu'elle a toujours fait depuis que je suis petite. Donc, du coup, j'essaie de ramener ça ici. Je fais un peu goûter à tout le monde, partager avec tout le monde, les clients, etc. C'est un peu aussi le côté de rendre hommage aussi à ma famille un peu ici. Et puis, je pense qu'on va faire un grand repas. Il y a des amis qui sont tellement proches maintenant ici que c'est devenu un peu la petite famille de Verbier. Mais on va essayer de faire quand même un truc ensemble parce que on est tous un peu dans ce cas-là, être un peu loin de notre famille. Donc, on essaie un peu de marquer le coup quand même comme on peut.
Le patron le confirme, ce sera effectivement une journée un peu spéciale.
Je m'appelle Dante Felice et je suis restaurateur, je tiens le Offshore Café à Verbier. Le restaurant il est ouvert le 25 décembre. On essaie de faire un repas staff un peu plus spécial et on prépare un cocktail, normalement c'est du eggnog, donc on trinque un coup ensemble et on se souhaite joyeux Noël.
Comme ici à Verbier, les saisonniers sont nombreux à passer les fêtes loin de leur famille. En Valais, on estime qu'ils sont entre 20 et 25 000 à travailler pendant l'hiver.
Le reportage signé Émilien Verdon est demain troisième épisode de cette série. On sera avec des gens qui donnent de leur temps bénévolement à Noël.
Le 12-30, Guillaume Rey.
Vous arrive peut-être de sortir en training très confort, car oui, les habits de sport ont intégré nos dressings du quotidien et c'est un des éléments de l'exposition Mode et Sport d'un podium à l'autre qui se tient jusqu'au 27 avril au Musée Olympique à Lausanne. Un voyage à travers l'évolution des vêtements de sport de 1800 jusqu'à nos jours. Près de 250 pièces sont à découvrir. Sophie Lemaillot est la commissaire de cette expo. Elle est venue nous en parler il y a quelques semaines dans le 12-30. Première question, a-t-elle des pièces coup de cœur ou qui illustrent l'évolution du rapport entre mode et sport?
Oui, moi, il y a différentes pièces qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment un ensemble de tennis pour femmes des années 1910 qui montre bien qu'on est très loin des perceptions qu'on peut avoir du vêtement de sport aujourd'hui, qui consiste en un corsage avec des grandes manches bouffantes, une jupe longue qui descend jusqu'aux chevilles, le tout dans un coton très clair avec un petit motif de rayures et de poids, où on sent toute cette élégance nécessaire pour donner quelque chose de plus contemporain aussi. Je suis très heureuse que la maison Alexander McQueen nous ait prêté une tenue qui a été faite pour Amy Mullins et qui a été portée par elle pour un défilé. Amy Mullins étant une athlète paralympique amputée des deux jambes, et donc on a cette tenue qui est constituée d'un corset de cuir qui reprend la forme de son corps, mais aussi deux prothèses en bois sculpté splendides qui montrent cette présence des athlètes paralympiques dans la mode également.
Vous évoquez cet équipement de tennis, pas forcément très optimal pour la performance. Il y a des périodes dans l'histoire où finalement c'est l'élégance qui prédominait plutôt que la performance sportive.
Oui, c'est à peu près comme ça que ça va se passer au départ au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, notamment au XIXe siècle quand on commence à parler de sport au sens où on l'entend aujourd'hui. Les sports vont surtout être réservés à une certaine élite. Certains vont se populariser très vite, notamment les sports collectifs de type football ou rugby, mais d'autres vont rester l'apanage de la bourgeoisie. C'est le cas du golf, c'est le cas du tennis, c'est le cas du croquet aussi à ce moment-là. Et ça se pratique dans un contexte d'entre-soi, bourgeois, de garden party par exemple, pour lequel on est là vraiment pour se montrer plutôt que pour gagner. D'où le fait que le vêtement soit alors très élégant et pas particulièrement performant, comme vous le disiez.
Et quel est le moment de bascule? À quel moment on se dit là, on va viser les équipements qui permettent vraiment la performance?
Si on veut résumer les choses, le changement va se faire tout au long du XXe siècle, mais on voit notamment une bascule dans l'entre-deux-guerres au moment des années 20 et au moment des années 30, à un moment où la compétition devient de plus en plus importante, où le public est de plus en plus enthousiaste devant tous les sports proposés. Et pour gagner, cette fois, on va commencer à avoir besoin d'un vêtement qui va venir accompagner le corps et qui va l'aider justement à performer. Et c'est là qu'on va commencer à trouver des innovations qui ne vont faire que se poursuivre jusqu'à nos jours.
Alors cette exposition sur la mode et le sport qui est à découvrir en ce moment au Musée Olympique à Lausanne, elle permet aussi de mettre en avant un autre point, c'est la question de l'émancipation en matière de mode, notamment pour les femmes. Le sport finalement a permis une certaine émancipation?
Oui, pour l'émancipation féminine, c'est assez intéressant de voir comment le vêtement de sport va jouer un rôle dans la libération du corps. Pour donner deux exemples différents, ça se voit beaucoup avec le développement du cyclisme à la fin du 19e siècle, où quand les femmes vont adopter le vélo alors que la mode est aux robes et aux jupes encore longues, notamment pour des questions de pudeur et de décence, a priori le cyclisme ne semble pas être une activité permise par ce vêtement, d'où le fait qu'on va commencer à adopter ce qu'on appelle des jupes culottes, qui sont des sortes de pantalons extrêmement bouffants, qui vont donc permettre d'avoir deux jambes séparées, donc d'enfourcher son vélo et de pédaler, mais aussi, quand on n'est pas sur son vélo, de conserver l'apparence d'une jupe et donc de conserver la décence. Pour prendre un autre exemple, on le voit aussi beaucoup dans les maillots de bain. Au départ, quand les femmes vont se baigner au 19e siècle, c'est justement plutôt de la baignade, elles vont barboter plutôt que nager. Et donc là aussi, c'est d'abord la pudeur qu'il faut respecter. Donc elles portent des costumes de bain, donc il faut imaginer une tunique qu'on portait sur une culotte, donc un petit pantalon avec des bas, des espadrilles, un bonnet. Quelque chose qui est très encombrant. À partir du moment où certaines femmes vont nager et s'engager dans des compétitions de natation, elles vont avoir besoin d'autres équipements et adopter les maillots de bain une pièce qui au départ sont des vêtements d'hommes en réalité et donc porter quelque chose qui est beaucoup plus moulant, beaucoup moins couvrant. Donc, et dans ce contexte spécifique qu'est le contexte sportif, on va accepter ce corps dénudé et finalement on va en prendre l'habitude au point qu'ensuite on va pouvoir passer ça dans la vie quotidienne et dans la mode.
Effectivement, Sophie Lemayeux, cette exposition mode et sport d'un podium à l'autre, quand on voit certains athlètes actuels, on a vraiment l'impression d'être sur un podium, d'assister à un défilé de mode. On pense à ces footballeurs qui se recoiffent sans cesse. Comment vous expliquez cette évolution finalement de sportif à égérie ?
Ce qui se passe dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est qu'on va avoir une médiatisation de plus en plus importante des sports, mais donc aussi des sportifs de manière plus individuelle, qu'on va commencer à admirer autant que les acteurs ou les chanteurs avant eux. Et donc, ils vont devenir de véritables idoles. Et ça, les marques de toutes sortes ne vont pas s'y tromper. D'où le fait que ces sportifs vont devenir eux-mêmes des égéries, des supports de publicité divers. Et les marques de luxe aussi vont en faire leur affaire et y trouver tout leur intérêt économique et en tout cas d'image, parce que finalement pour une marque de luxe, faire appel à un sportif, c'est s'associer aux belles valeurs du sport, que ce soit l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, entre autres, le fair play aussi, pourquoi pas. Donc on a comme ça un échange des valeurs entre d'un côté le luxe et ses savoir-faire qui rayonnent sur le sport et d'un autre côté le sport qui va apporter donc tout son domaine positif au luxe.
Avec des enjeux financiers qui deviennent pour le coup très importants.
Avec des enjeux financiers importants tant pour les marques de luxe que pour les équipementiers aussi. Et d'ailleurs ce sont deux domaines qui vont de plus en plus collaborer, créer des collections capsules qui fonctionnent extrêmement bien et ne cessent d'être renouvelées.
Alors quand on pense business de la mode et du sport, peut-être qu'il y a aussi ça qui nous vient à l'esprit, écoutez.
2,2 millions de dollars, c'est la somme record qui a été déboursée aux enchères aujourd'hui pour acheter une paire de baskets de Michael Jordan. La légende de la NBA les avait portées durant sa première finale de championnat en 1998 avec les Chicago Bulls.
2,2 millions de dollars aux enchères pour des baskets de Michael Jordan. Est-ce que ce business autour de la mode et du sport vous dirait qu'il va parfois un petit peu trop loin ?
Alors, ce n'est pas moi en tant qu'historienne d'en juger. En tout cas, on voit à quel point il crée un engouement et même des spéculations dignes du marché de l'art aujourd'hui. Et Michael Jordan fait vraiment partie de ces figures qui, à un moment donné, ont réussi à commercialiser leur image en l'associant à une marque et à le faire de manière brillante pour lui et avec un vrai rayonnement jusqu'à nos jours pour ce qui concerne les Air Jordan.
Alors pour conclure, on précisera que ni vous ni moi ne portons a priori d'habit de sport, des baskets peut-être.
Ah, si, j'ai des baskets aujourd'hui, oui.
Moi aussi, tous les deux. Mais les habits de sport, on peut dire, c'est vraiment devenu quelque chose du quotidien dans nos dressings. On a des trainings qu'on met parfois dans la rue. C'est une tendance actuelle qui va perdurer, vous pensez, ou comme toute mode, c'est voué à disparaître, puis revenir, c'est un peu cyclique.
Je crois que c'est quelque chose qui va perdurer. C'est un peu ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition ici au Musée Olympique. C'est que finalement, ce qu'apporte le sport à la mode, c'est un peu l'histoire de cette quête du confort qui progressivement va s'introduire dans la mode via le vêtement de sport. Et ce confort, une fois qu'on y a goûté, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Donc même si là, dans les Dans les dernières années, on a pu voir justement les baskets, les sneakers disparaître un peu des podiums. En réalité, dans notre vie quotidienne, je crois que le corps s'est trop habitué à ce type de confort pour qu'on revienne totalement en arrière. Bien sûr, on peut avoir de légères fluctuations, mais c'est plutôt une tendance sur le long terme qui se poursuit.
Voilà pour cet entretien en nouvelle diffusion avec Sophie Lemayeux, commissaire de l'exposition Mode et Sport d'un podium à l'autre, à découvrir jusqu'au 27 avril prochain au Musée Olympique à Lausanne. Météo, les éclaircies seront de plus en plus larges au fil de la journée. Aujourd'hui, il fera au mieux 5 degrés en pleine avec un peu de bise sur le plateau. Pour demain, un jour de Noël, temps en général ensoleillé malgré quelques voiles nuageux ou stratus matinaux possibles, maximum 4 degrés. Et puis jeudi, temps ensoleillé avec probablement du stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 1200 mètres, maximum 3 degrés en pleine avec une bise faible à modérée sur le plateau.
La vie à peu près, Agnès Léveillé. De l'île du Soleil sur le lac Titicaca à la jonction de l'Arve et du Rhône à Genève, cette semaine, nous arpentons les territoires de la plasticienne Carmen Perrin. Soyez les bienvenus. En 1974, Carmen Perrin a 19 ans. Sa maturité en poche, elle part avec une amie en Amérique du Sud, où elle retrouve les terres boliviennes qui l'ont vue naître. De retour en Suisse, après un bref passage à l'université, elle entre aux Beaux-Arts, une période stimulante où elle découvre la gravure, rencontre des professeurs enthousiasmants et croise des camarades avec lesquels elle cofonde l'espace d'art Dioptre. C'est là que Carmen Perrin monte sa première exposition, dans laquelle elle présente une pièce en plaques d'ardoise et lumière, une échelle en tube de verre comprenant de petites mises en scène, une balançoire métallique avec un contrepoids et une installation sonore avec l'enregistrement des bruits de la rue. L'île du Soleil, les Beaux-Arts et l'espace Dioptre, voici le deuxième volet de La vie à peu près de Carmen Perrin, une série proposée cette semaine par Florence Crivel et réalisée par Sacha Anger.
Bonjour Carmen Perrin.
Bonjour Florence Crivel.
Vous m'accueillez dans votre atelier à la Praille, à deux pas de Genève. Vous vivez tout près, ça veut donc dire que, vous nous l'avez dit, vous pouvez venir travailler ici à toute heure, il suffit de passer le pas de la porte. Est-ce que vous avez des heures où vous travaillez mieux, des heures de prédilection?
Oui, je pense que je travaille mieux le matin. J'essaye de travailler le plus tôt possible. Oui, c'est jamais avant 9h, 8h, mais j'aime beaucoup le matin, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous travailler? Parce qu'arriver à l'atelier, j'imagine que vous n'êtes pas tout de suite en train de faire une pièce. Ça veut dire peut-être errer, ça veut peut-être dire lire, dessiner.
Alors, très souvent, ce que je fais, c'est que d'abord je lis. Mais comme j'habite dans l'atelier, ben, je lis sur mon lit.
Qu'est-ce que vous lisez?
En fait, à chaque fois, je lis ce qui est en relation avec ce sur quoi je travaille. Que ce soit des documents scientifiques, architecturaux, que ce soit de l'histoire de l'art, ou de la philosophie, ou de la technique, ou de la géographie, enfin...
Très sérieux, là. On n'est pas dans le jeu.
Non, on n'est pas dans le jeu, mais en même temps, c'est... En même temps, les connexions qui se font entre mes lectures... sont un peu comme le labyrinthe. C'est des connexions qui, parfois, ne débouchent sur rien et parfois créent des connexions qui se démultiplient et puis qui font advenir surtout des visions, des idées, des hypothèses inattendues. C'est ça que j'attends de la lecture.
Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Souvent, ce qui se passe, c'est que pendant la lecture, je me souviens que je suis en train de faire quelque chose dans l'atelier qui a un lien avec ce que je viens de lire. Et c'est par là que je commence.
Vous avez le sentiment que cet exercice justement d'activer les liens, c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui se travaille?
Absolument. C'est très bien développé, très bien décrit.
Carmen Perrin, au fil de cette série de La vie à peu près, ce sera l'occasion de retraverser certaines de vos œuvres, notamment celles que le grand public connaît peut-être sans savoir qu'il s'agit que l'artiste, c'est vous. Je pense à la grande porte oblitérée de la gare Cornavin à Genève, je pense aux dunes de Plainpalais, de la salle de l'Alhambra. Est-ce que pour vous c'est important d'intervenir par exemple, dans la ville dans laquelle vous, vous vivez, en tant qu'artiste, de laisser des traces là. Alors que vous avez fait ça partout ailleurs en Suisse et même ailleurs dans, dans le monde, mais à Genève, il y a quand même plusieurs endroits où vous êtes présente.
Oui, mais c'est pas du tout important en soi. En fait, non, c'est une disponibilité à l'occasion, c'est-à-dire à une rencontre. Alors soit je participe, soit je m'inscris, soit on m'invite à un concours. Et miracle, j'arrive à le gagner, donc je peux réaliser. Soit, et ça c'est arrivé très souvent, un bureau d'architecte, un mandataire vient me chercher et c'est une commande directe. Mais que ce soit à Genève, à Lausanne, à Anvers, à Paris, non, ce qui compte, c'est la rencontre.
Et par exemple, pour la gare Cornavin, est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre?
Alors en fait, ce qui s'est passé pour la gare, c'est que le bureau Techné m'a contacté, Techné de Lausanne, m'a contacté. Ils ont commencé par me dire, ben, on vient vous chercher parce que il faudrait qu'on arrive à donner une forme à la nouvelle porte de la gare Cornavin parce que l'ancienne a disparu.
Disparu? Oui. Ah, c'est extraordinaire.
En fait, elle a dû être rangée je ne sais pas où. J'ai pas beaucoup creusé, hein, mais ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer que cette porte, au moment où ils ont fait les travaux pour dans les années 70, je pense, hein, pour faire la nouvelle gare, ils l'ont enlevée. Soit elle a été démontée et puis recyclée, soit elle a été stockée quelque part et on a oublié. Mais là, ils la retrouvaient plus. Et du coup, ben, la chance est pour moi. On m'a demandé de la concevoir, voilà, et c'était passionnant.
On vous a laissé hier enfant avec toute cette famille ici, arrivée à Genève tout début des années 60, après avoir être partie de La Paz en Bolivie. On a un portrait de votre père, on a un portrait de votre mère, on sait que vous avez trois sœurs, et puis... L'adolescence qui arrive gentiment, vous êtes quel genre d'adolescente? Vous parliez de l'école hier, là vous faites une matu si je me souviens bien.
Oui.
Voilà, quel genre d'adolescente vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt une roqueuse? Ou est-ce que vous êtes... Qui êtes-vous, Carmen Perrin, jeune ado?
Oui, ça me fait rire parce que c'est un mélange.
Ah, d'accord.
Parce que comme j'ai toujours été fidèle à mon père et à ma mère, adolescente... J'ai fait ma première communion à l'église, à la paroisse Sainte-Clotilde, à la Jonction. J'ai fait les scouts, j'étais chef-ten scout à la paroisse Sainte-Clotilde. Mais le bon côté de chef-ten scout, c'est que, en fait, j'ai adoré ça parce que c'est ce que j'ai retrouvé plus tard dans l'enseignement. C'était sortir de la maison, partir avec un groupe, camper à la campagne, se perdre dans la forêt, inventer des jeux pour passer le temps, et puis, ben, on était que des nanas en plus, et du coup, ouais, c'était, j'ai que des souvenirs heureux, quoi.
Et puis c'est la débrouille et aussi.
C'est la débrouille, voilà. Non, oui, c'est l'apprentissage de la vie, ouais. tout à fait, et puis la prise de conscience que l'indépendance et la liberté, c'est magnifique. Puis en même temps, je suis quand même bien tombée par rapport à au curé, parce que il y avait des prêtres qui étaient des prêtres de gauche à cette époque.
Prêtre ouvrier, quelque chose comme ça.
Il y avait un prêtre ouvrier et un autre prêtre qui plus tard a quitté la prêtrise parce qu'il est allé vivre dans une communauté, a eu une compagne, des enfants. Et du coup, j'étais entourée. Un des deux prêtres, là, celui qui est parti, par exemple, lui, il m'a appris qui était Che Guevara.
Ah ouais, alors ça, c'est pas mal.
Et pourquoi? Parce qu'il avait le poster dans son bureau. Et dans son bureau, il y avait cette tête. Et du coup, mon père, ça lui a beaucoup plu. Parce que je lui ai dit un jour en rentrant, mais il y a la même photo que tu as dans ton bureau, dans le bureau du curé. Et ça l'a bien fait rire. J'avais un deal avec mon père pour parce que j'avais des amis qui avaient grandi en même temps que moi à la Jonction et qui venaient de familles très différentes et de cultures très différentes, avec qui de temps en temps je pouvais parler espagnol d'ailleurs. Et on était comme ça une bande de copains et copines. Et on était... toujours attiré vers la rue, jouer dehors, dans le quartier, etc. Et puis du coup, mon père m'a dit, tu peux aller dehors comme tu veux, simplement, tu peux pas descendre en bas de troisième de classe. Alors garde cette position et tu garderas ta liberté. Et je l'ai fait.
Et puis je crois que aussi vous faites un peu de rock.
Non, on a oui, c'était...
Bah oui, un groupe de rock, il me semble, à la jonction.
Oui, un petit groupe de rock, j'avais 12 ans. Mon père m'a acheté une batterie pour Noël. Et on avait Delphine qui jouait la guitare, Jocelyne qui chantait, je crois, et puis moi. Et en fait...
C'est des amis ou c'est vos sœurs?
Non, non, c'est des amis. C'est des amis. Delphine, elle habitait juste au-dessus de chez moi. Et en fait, c'était le moment à la jonction où, en fait, depuis les bâtiments de Neger, c'était la campagne jusqu'au bord de l'Arve. Et donc, on avait la vue sur l'Arve. Et puis, nous, on allait dans les arbres et on se faisait des cabanes dans les arbres. Et dans une de ces cabanes, on faisait nos répétitions. Et petit à petit, il y a des garçons qui se sont mis en concurrence avec nous, qui ont fait aussi leur groupe. Et puis, de nouveau, bah, c'était un jeu de compétition, chose. Et ouais, c'était génial. Voilà.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre curiosité, votre appétit pour le monde, parce que vous décidez de tracer la route sans la bénédiction de votre famille pour partir en 1974 en Amérique du Sud. Vous avez votre bac, hein, je crois, en poche. Vous partez avec une amie qui s'appelle Amalia. Alors, d'abord, est-ce que c'est un voyage retour aux sources, revenir dans le pays de votre enfance? Qu'est-ce que vous allez chercher, en fait, dans cette aventure? Et qu'est-ce que vous allez trouver? En quelques minutes, vous devez nous raconter ça, Carmen Perrin. Ça va être difficile, hein?
En fait, voilà, ça a commencé comme ça. Avec Amalia, on venait de passer la Mathieu. Et je ne sais plus comment on a décidé de partir ensemble en Amérique du Sud. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ses parents, à elle, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on s'est donné une année pour gagner de l'argent, payer notre voyage, ne rien devoir à personne et se préparer. Mais pour moi, ce qui était important, c'était comme un pèlerinage. Ma sœur aînée vivait au Chili avec sa famille. Mon autre sœur était en Suisse, mais elle avait par son mari de la famille en Uruguay. Et du coup, bon, on est parti en fait 7 mois, je crois, 7 ou 8 mois. On est allé au Brésil, en Argentine, au Chili, en Bolivie et au Pérou. Voilà, on a fait 5 pays. Et au milieu du parcours, on s'est arrêté à La Paz. Et et quand on s'est arrêté à La Paz, évidemment, on est allé chercher la clé de l'appartement qui était encore un appartement que possédaient mes parents. Et on est allé chercher la clé. Après tout un long voyage, on était un peu crevés. Et puis il y avait aussi le jet lag. Et du coup, on a à peine cherché quelque chose à manger et on s'est couché. Et c'était en plein après-midi, mais le téléphone a commencé à sonner. Et puis j'ai vite compris que mes parents avaient averti la famille que j'allais arriver.
Bien sûr.
Et du coup, ça en est suivi, mais on était invités à prendre le petit déjeuner chez l'un, à manger à midi, à prendre le thé à 5h, à dîner le soir. Et en plus, à sortir avec les jeunes qui avaient notre âge pour aller écouter un concert, aller danser, je sais pas quoi. Et il y avait... Voilà, toute la semaine était prise comme ça. On découvrait avec les yeux complètement écarquillés la famille, les amis, la plupart des gens que moi je reconnaissais pas et qui me connaissaient pas. Et puis voilà, on avait et puis bon, au bout de 15 jours, on en a eu marre. Et puis on est parti à l'île du Soleil et on s'est retrouvés les deux sur cette île à explorer l'île. Parler avec les habitants, puis moi, me remémorer des choses.
Est-ce que cette île du Soleil, il faut peut-être préciser de quoi s'agit. Il y a un lien particulier avec cette île, Carmen Perrin.
Alors, pour essayer d'aller vite, à l'origine, cette île était un peu un sanctuaire incaïque pour des prêtres incas. Ensuite, c'est devenu la propriété d'une famille inca qui s'est alliée avec une famille espagnole à la colonisation. Ça, c'est la première phase. Ensuite, ma grand-mère et sa famille, ils ont acquis la moitié de l'île de la part de la famille Pando.
Qui espagnole, venait donc.
Du mélange des deux.
Mélange des deux, oui. Ouais. Inca et espagnol.
Voilà. Et donc, la moitié de l'île appartenait à ma grand-mère et l'autre moitié à une autre famille. Et mon père, qui était le fils de Léonore Pando, est né à Genève, son frère aussi, comme je l'ai raconté hier. Du coup, ensuite, en 1952, il y a eu la révolution en Bolivie, menée par le MNR, qui a décrété...
La révolution agraire.
Voilà, la révolution agraire. Et pendant cette révolution agraire, les terres ont été restituées aux communautés indiennes. Donc les terres qui appartenaient à ma grand-mère, elle a dû les restituer à la communauté de Yumani qui les a récupérées. Et quand ces terres ont été récupérées, donc dans les années 52, mon père avait des contacts très positifs, aimables, complices avec les gens de la communauté de Yumani, certaines personnes. Et plutôt que de lui prendre la maison qui restait, ils lui ont dit « tu peux rester chez toi, dans ta maison ». On prend les terres, mais on te laisse la maison avec un jardin autour. Et du coup, cette maison, elle est restée sa propriété. Et du coup, mon père nous a amenés, pendant notre enfance, le plus souvent possible, en relation avec des fouilles archéologiques, ou simplement pour passer des vacances, sur l'île du Soleil, qui est devenue notre deuxième maison là-bas. Voilà. Chaque voyage que j'ai fait, j'ai toujours eu cette sensation qui fait que dans ces... Oui, dans ces allers-retours entre le proche et le lointain, j'ai fini par construire ma manière de voir ce lieu, d'y penser, mais même ma manière de travailler aussi, même dans l'art.
Alors ça, oui, ça, on pourrait évidemment, cette tension toujours, ces va-et-vient, voilà. Ça, c'est clair que ouais. C'est quelque chose de très, ouais, très constitutif de votre travail, Carmen Perrin. Si on revient justement à la fin de ce voyage, vous redébarquez à Genève, et là, ça va être, voilà, les Beaux-Arts de Genève. Donc, le choix s'impose après le voyage?
Alors, après le voyage, on rentre et puis je retrouve ma famille. Et puis, j'ai un premier clash avec mon père parce que mon père me dit « C'est bien, maintenant tu es là, je t'ai inscrit à l'école d'architecture ou l'école des Beaux-Arts. » Et moi, je suis rentrée avec la tête, le cerveau plein de questions de mon voyage en Amérique latine. Du coup, j'ai une réaction de révolte et je veux absolument pas qu'il décide pour moi, c'est moi qui décide. Du coup, rien que pour le contredire, je m'inscris à l'université avec Amalia qui s'inscrit aussi à l'université, mais elle va, je crois, en lettres espagnoles et espagnoles et françaises. Et moi, je me suis inscrite en histoire de l'art et en linguistique. Au bout de 6 mois, je me suis dit, je vais quand même essayer l'école des Beaux-Arts. Et j'ai pris mon temps, j'ai pris une année, j'ai fait un dossier, et puis je l'ai présenté, et puis ça a marché.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Je suis très curieuse.
Alors, dans ce dossier, il y avait beaucoup de dessins. Des dessins très naïfs, dans le sens où c'était comme un peu des poèmes figuratifs, surréalistes. Il y avait beaucoup de femmes dans des positions, oui, de fragilité, des décors, des atmosphères de rêves, ouais, des nuages.
Très onirique, en tout cas.
Oui.
Et c'est marrant parce que le surréalisme laisse des traces aussi dans votre travail de sculpture. Ça, on peut aussi faire des passerelles. Donc, vous entrez dans cette école des Beaux-Arts avec des dessins. Et puis pourtant, c'est quand même la matière. Et très vite, ça va être la matière qui va vous accaparer.
Ben oui, mais tout de suite. Parce que, en fait, quand j'ai été acceptée, pendant l'entretien, on m'a dit « Vous voulez rentrer dans quel atelier ?» Et moi, j'ai voulu la gravure. Et j'étais impatiente de travailler avec de l'acide, du cuivre, de pouvoir démultiplier des images, de voir se transformer ce matériau, et surtout aussi de pouvoir manipuler les images et me salir les mains comme petite avec la terre et tout ça. Et je me suis passionnée pour... J'aurais pu passer en diplôme en gravure, mais sans problème, tellement j'aimais ça.
Et pourtant,
il y a eu des rencontres à l'École des Beaux-Arts qui m'ont transformée. Donc il y a eu l'atelier Chérif et Sylvie de Fraoui, que j'ai commencé par regarder de l'extérieur, un peu comme on observe un peu un lieu qui nous fascine et en même temps qui nous fait peur, qui nous intimide.
Ah, Sylvie Defraoui qui est toujours sur la scène et qui continue à être active, elle est
absolument,
tout à fait impressionnante.
Hein. Absolument, magnifique exposition qu'elle vient de faire à Lausanne d'ailleurs.
Oui, au Musée Cantal des Beaux-Arts, je crois que c'était l'année
dernière.
Oui, ouais.
Tout à fait. Et du coup, je me suis petit à petit, comme ça, on était plusieurs à observer cet atelier où il se passait des choses qui ne se passaient pas dans les ateliers où on était. Et puis, heureusement, les jurys à l'École des Beaux-Arts étaient publics. Du coup, on assistait aux jurys et à la manière dont eux poussaient leurs étudiants à parler de ce qu'ils faisaient, à répondre aux questions, et pas seulement répondre, mais à établir une conversation avec des artistes très connus, avec des spécialistes de la théorie, etc. Et puis l'autre rencontre à l'école, c'était Daniel Willem, qui était un sémiologue. Et là, les cours aussi étaient fantastiques, parce que ce cours-là, après un cours que j'ai eu au collège, faut dire, qui m'avait déjà ouvert l'esprit à la philosophie, là, le cours de sémiologie a ouvert aussi des portes de réflexion qui ont été très fructueuses.
Il y a, chez vous, on sent que bah, vous êtes vraiment très active, très entreprenante, et très vite, vous allez exposer. Première exposition qui correspond à la création d'un espace qui s'appelle Dioptre, avec Jean Stern, Albert Pilloux et Stéphane Brunner. Vous êtes seule avec trois garçons et vous proposez des expositions qui durent un jour, c'est ça?
Oui, les vendredis.
Ouais. Et c'est quoi cet espace? C'est quoi cet endroit?
En fait, on était trois amis très proches et très attentifs à ce que les uns ou les autres faisaient. Donc on regardait beaucoup nos travaux, on en parlait beaucoup et on était, oui, très complices. Mais à un moment donné, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on prépare une expérience qui soit l'expérience qui nous fasse sortir de l'école, qui nous fasse sortir et entrer dans le monde artistique et dans le monde tout court. Et du coup, on a imaginé comment on pourrait réunir des artistes, du public, dans un lieu qui soit pas l'école. Alors on s'est dit, mais une galerie, mais on peut pas ouvrir une galerie. On n'était pas du tout intéressé à ouvrir une galerie, ni à travailler dans un lieu institutionnel. Alors on a imaginé qu'on allait trouver un lieu, comme une cabane, et que dans ce lieu, on allait s'amuser à des jeux sérieux. Et petit à petit, ben, on a imaginé que ce lieu, on allait l'utiliser pour travailler pour nous, mais qu'on allait l'ouvrir au public qu'une seule journée par semaine. Et c'est devenu Dioptre. Et pourquoi Dioptre? Parce qu'en fait, ce lieu était petit et il avait une immense vitrine. Et du coup, la réflexion de la lumière en relation avec le dedans et le dehors donnait l'idée que l'art était aussi une dioptrie, hein, une manière de relier deux espaces ou plusieurs espaces par déformation de point de vue, par déformation de catégorie. Je pense que ce qui a aussi provoqué cet enthousiasme ou cette curiosité, disons, c'est le fait que ça ne durait qu'un jour par semaine, que quelques heures par semaine. Alors que, en fait, on a fait venir des artistes du Japon, d'Italie, McCollum de New York, de France, de Suisse. J'espère que j'oublie personne, pas de pays. Mais il y avait, on peut répartir le travail, comme ça on a voyagé pour rencontrer les gens qu'on admirait. Hein.
Vous aviez des subventions, comment ça marchait?
Oui, on a demandé des subventions. Certaines subventions étaient difficiles à trouver, puis d'autres plus aisées. Je sais pas, il y a eu un
souffle, c'était quelque chose, une sorte d'évidence.
Oui, et puis on était en tout cas trois. Je sais plus ce qu'il faisait Albert, mais on était en tout cas trois, on enseignait, donc on gagnait notre vie. Et puis on pouvait mettre de l'argent de nos salaires dans cette
aventure.
Hein, ouais.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Carmen Perrin. La musique pour nous dire au revoir, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui, Carmen?
C'est Alain Bachung, Le secret des banquises. Ben, Le secret des banquises, c'est le doute. C'est quand il nous dit, et toi, est-ce que t'as des doutes? Et il arrête pas de dire, j'ai des doutes sur ci, j'ai des doutes sur ça, j'ai des doutes. Pour ça, elle est magnifique, cette chanson. Et lui, il a été pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup stimulée dans mon travail, dans sa relation tellement inventive avec les jeux de mots, le poème, l'humour, la tragédie, ce va-et-vient entre la mélancolie et en même temps un amour de la vie. Ouais.
Bah, je vous propose qu'on infuse tout ce que vous venez de dire en écoutant Bachung, Le secret des banquises. À demain, Carmen Perrin.
À demain.
J'ai des doutes sur le changement d'heure, en été. J'ai des deux sœurs qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité, sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés? Est-ce que vous en avez des devises, des pensées, de l'assise du cœur? J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés? Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier? Est-ce que vous en avez déchiffré les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises? Couper court à l'appel de la brise et livrer les secrets des banquises. Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?
And I've got a message.
gave to you. Here come the planes. So you better get ready, ready to go. You can come as you are,
Superman par Laurie Anderson. C'était le deuxième choix musical après Alain Bachung de la plasticienne Carmen Perrin que nous suivons cette semaine au micro de Florence Grivel. Et demain, dans le troisième volet de sa vie à peu près, Carmen Perrin racontera comment est-ce qu'elle gratte, enlève, perfore la matière pour mieux la révéler. La vie à peu près s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Sacha Anger et à Didier Rossa pour la réalisation de l'émission. Merci aussi à notre attachée de production Audrey Zano. La vie à peu près, c'est une proposition de Florence Grivel et Agnès Léveillé. Nous vous retrouvons du lundi au vendredi dès 13h30 sur Espace 2 et quand ça vous chante sur Play RTS. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'Espace 2. Il est